belles rencontres sont toujours inattendues. Elles peuvent parfois changer le cours de votre vie.
La belle rencontre d'aujourd'hui, je vous la propose avec un homme plus qu'engagé. Engagé dans une cause qui nous concerne tous et qui est souvent mal connue. Entre les céréaliers de la Beauce et l'éleveur de chèvres de l'Ardèche, quels sont les enjeux de l'agriculture moderne et surtout, quelle devrait être la part de l'écologie dans le monde paysan? Pour en parler, Jean-Philippe Martin, auteur du livre « Des paysans écologistes ». Bonjour Jean-Philippe.
Bonjour.
Jean-Philippe, c'est quoi pour vous une belle rencontre?
Je dirais que c'est une rencontre qui engage vers l'avenir et qui ouvre des possibles. Et de ce point de vue-là, en tant qu'historien, j'ai fait une belle rencontre quand j'ai, dans les années 90, lu pour la première fois les documents de la Confédération paysanne, ça s'appelait comme ça à l'époque, et donc leurs propositions. Et ça me semblait porteur à la fois de perspectives et de valeurs intéressantes, mais qui ne se limitait pas à l'agriculture, qui pouvait être transposé et qui pouvait créer des solidarités avec d'autres secteurs de la population.
Qui pouvait être aussi politique que concernant l'agriculture, ça pouvait être sur le monde syndical, ça pouvait être sur tout le...
Oui, il me semble que c'était à la fois ouvert sur le monde syndical, comme vous dites, des ouvriers, des employés, des enseignants, mais aussi sur tout ce qui est associatif, et je pense aux associations écologistes ou environnementales, comme voilà, et de consommateurs, si le consommateur.
Bien sûr, d'ailleurs on va en parler des consommateurs. La nôtre, elle s'est déroulée lors du salon, la nôtre de rencontre, elle s'est déroulée lors du salon du livre et des arts de Figueroles, puisque vous étiez en fin d'aller comme ça, et j'étais avec mon amie Marie-Agnès, hein, qui fait les émissions poétiques, sur Radio FM+. Et franchement, on est parti dans une belle discussion, tous les trois.
Hein, voilà. Oui, tout à fait.
Et ça m'a donné envie de la continuer. Je crois que ça a donné aussi envie de la continuer à Marie-Agnès. Mais Marie-Agnès, elle parle poésie. Donc c'est plus compliqué. C'est important pour vous de présenter vos livres sur ce genre d'événement, par exemple ?
Eh bien, écoutez, il est sorti en juin, ce qui n'était pas vraiment une bonne date, le mois de juin, pour sortir un livre là-dessus. Et donc, j'appartiens à une association qui s'appelle la Carmagnole, sur Montpellier. Je me suis inséré dans cet événement auquel participait la Carmagnole. Et bon, j'essayais de populariser cet ouvrage qui me semble à la fois apporter un plus et un ton différent, parce que on verra sur quoi j'ai travaillé précédemment, mais dans le sens où il ne s'agissait pas de dénoncer la FNSEA, ou de dénoncer le productivisme, ou de critiquer les choix gouvernementaux de l'Union européenne, mais d'essayer de voir les efforts faits par des agriculteurs, des paysans, pour aller dans un sens plus environnemental, pour se passer des pesticides ou limiter leur consommation, pour se passer des engrais chimiques. Voilà. Et c'était un livre, j'allais pas dire porteur d'espoir, ce serait prétentieux, mais qui voulait
des solutions, en tout cas.
Voilà, qui voulait montrer les solutions sur une durée moyenne d'une soixantaine d'années. Des premiers, alors j'utilise le terme luberlu, de Nature et Progrès, ces babacool qui faisaient d'une manière complètement abracadabrantesque, dirait Jacques Chirac, aujourd'hui, eh ben, c'est 12% des agriculteurs qui sont en bio. Et il y a aussi tous ceux qui ne sont pas encore en bio, mais qui font un peu autrement, qui pratiquent une agriculture différente du modèle productiviste. Alors en superficie, ça fait moins, évidemment, parce qu'ils sont souvent sur des petites ou des moyennes structures.
C'est vrai qu'il y a cette image quand même, quand vous parlez du luberlu, c'est un peu ça, quoi. C'est-à-dire qu'à chaque fois, moi je me rappelle les premiers échos que j'ai eu ça. Oui, c'est souvent lié en plus avec des luttes aussi. Alors évidemment, on peut pas ne pas évoquer le Larzac, surtout chez nous, mais on les trouve en Bretagne. C'est aussi des fois lié à des luttes identitaires, enfin identitaires régionalistes en tout cas, parce qu'identitaire, c'est un mot dont je me méfie, mais régionaliste.
Alors, en partie régionaliste, mais aussi dans des régions périphériques. Hein, j'utiliserais plutôt l'expression région périphérique pour le produire autrement, pas forcément pour la démarche syndicale, hein, mais pour l'idée de produire autrement, des régions qui ne sont pas dans la céréale, dans les betteraves, et donc qui étaient des régions de polyculture et élevage, de montagne pour le Massif central ou de petites structures pour le sud-ouest ou le Languedoc, et de petites structures ou de moyennes structures pour la Bretagne. Voilà.
Mais c'est vrai que parler du monde paysan, c'est très difficile, parce que bon, c'est ce que je mettais dans votre présentation, c'est donc entre le céréalier de la Beauce qui est millionnaire, enfin bon, voilà, et puis la petite nana qui a ses 10 chèvres et qui fait ses fromages de chèvre qu'elle va vendre au marché de Florac le mercredi matin, c'est pas le même monde.
Oui, il y a une grande diversité, effectivement, une grande diversité. Alors la FNSEA affirme, elle, qu'elle fédère, c'est ça, tout ça, effectivement. Sauf que on vient de voir, le nouveau dirigeant de la FNSEA, il est à la tête d'une très grande
Lactalis,
société.
Enfin, oui, c'est voilà. Pas Lactalis, mais c'est de ce genre-là.
Qui produit des oléagineux, voilà. Etc. Donc voilà, là on est vraiment, c'est une caricature d'agrobusiness, quoi.
Pire que la nana d'avant qui était, elle, directrice des ports et des... Voilà, voilà. Mais elle était gratinée déjà, quand même.
Oui, hein, oui. Elle avait du répondant,
oui.
Mais elle était plus proche peut-être de l'agriculture.
Je voilà. pense. Je voulais parler des autres livres, parce que bien sûr qu'on va parler un peu plus longuement après la pause musicale des paysans écologistes, mais il n'y a pas que ça. Dans votre bibliographie, il y a des mai 68 dans les campagnes françaises, les contestations paysannes dans les années 68. Alors c'est vrai qu'en plus, ça c'est vraiment passé, on n'en parle plus du tout. La Confédération paysanne aujourd'hui, le syndicat face aux défis du 21e siècle, toujours chez l'Harmattan, hein, et l'histoire de la nouvelle gauche paysanne, des contestations des années 60 à la Confédération paysanne. C'est très... et en préparant l'émission, vous me l'avez dit, Nathalie, attention, oui, je suis un homme engagé, mais je suis surtout un historien. C'est-à-dire que dans vos livres, vous avez une vision des faits.
Oui. Hein. L'idée, c'est de faire des travaux d'historien. Il ne s'agit pas de déformer, le but n'est pas de déformer les propos des gens avec qui je suis en désaccord, ou, hein, comme citoyen. Hein, non, là, dans le dernier livre, par exemple, je présente les positions de la FNSEA, hein, y compris ses petites avancées. Par exemple, il y a maintenant une commission bio à la FNSEA, alors qu'il y a 40 ans, 50 ans, ils houspillaient ceux qui faisaient du bio. Hein. Maintenant, par exemple, à la coordination rurale, qui est un syndicat plutôt marqué droite, bien à droite, c'est une femme qui le dirige. Voyez,
donc il y a des mouvements quand même.
Il y a des mouvements quand même, mais effectivement, il faut pas déformer, mais bon, il faut dire ce qu'ils disent, ce qu'ils font, etc. Idem pour les syndicats pour lesquels j'ai plus d'empathie, la Confédération paysanne. Je pointe aussi les limites, les contradictions. Par exemple, sur la place des femmes dans le syndicat, il a fallu beaucoup de temps pour que les femmes prennent des responsabilités, et ce n'est que cette année, oui, il me semble que c'est une femme, Laurence Marandola, qui dirige la Confédération paysanne seule. Il était arrivé qu'une autre femme
soit en coprésidence.
Soit, mais elles étaient trois, puis deux. Elle était en coprésidence. Voilà. Bon, mais le livre là sur lequel je travaille, j'ai voulu un peu faire un pas de côté par rapport aux luttes syndicales ou aux luttes paysannes de masse. J'ai voulu plutôt essayer. C'est pas un feel-good bouquin, mais plus essayer de voir qu'est-ce qui est fait par des acteurs. Comment ils le justifient ? En donnant beaucoup la parole aux agriculteurs, parce qu'ils écrivent beaucoup, alors des brochures, des tracts, des petits textes pratiques, comment produire, comment vivre de sa production, etc. Donc ils prennent la parole ou ils tirent des bilans dans les documents de SOS agriculteurs en difficulté, comment ils ont été coincés par le productivisme et comment ils ont essayé de redémarrer autrement. J'essaie de leur donner la parole aussi beaucoup à ces acteurs.
Comment elle en parle d'ailleurs, la FNSEA, du bio, parce que pour moi, alors c'est vraiment un regard extérieur, Jean-Philippe, mais le bio et l'écologie en milieu paysan, c'est forcément politique, puisque c'est forcément anticapitaliste. Alors, est-ce que je me trompe ou pas ? Mais bon, on ne peut pas adapter une morale capitaliste à justement au retour, au bon, au défrichage à la main. Enfin, je veux dire, la FNSA, elle est aussi portée par cette logique capitaliste. Alors, donc, comment eux peuvent quand même le récupérer
Ils ont une vision à la fois industrielle, agro-industrielle plutôt, et commerciale du bio. Le bio, c'est un marché.
Ouais.
D'accord. Et donc, on peut produire du bio. Et donc, vous aviez je ne sais pas si c'est encore le cas, mais il y a un an ou deux, le dirigeant de la FDSEA d'Ille-et-Vilaine, qui était en bio, qui était passé en bio, etc. etc. C'était un marché, c'est un producteur laitier, hein, c'est un marché qu'il faut conquérir, sur lequel il faut jouer. Mais ils en soulignent beaucoup les limites, du fait des consommateurs, donc en disant les consommateurs n'achètent pas, surtout depuis la guerre en Ukraine.
C'est sûr que ça a augmenté.
Les consommateurs n'achètent pas, etc. Par contre, ils ne défendent pas une autre vision de la politique agricole commune qui favoriserait les producteurs en bio, parce qu'il y a bien des primes à la conversion pour passer en bio, si vous voulez, parce que ça prend du temps, c'est compliqué, mais il n'y a pas de prime dans la déclinaison française de la politique agricole commune, il n'y a pas de prime pour ceux qui veulent se maintenir en bio. D'accord ? Et même si on voit là, c'est très compliqué la politique agricole commune, mais bon, il y a deux piliers. Le pilier économique, c'est 80%, donc là, ça revient à la quantité produite à la surface. Et le pilier agro-environnemental, c'est 20%. Donc, si vous voulez, effectivement, les aides, malgré le discours, et c'est ça que j'ai essayé de pointer aussi, c'est que ça fait 30 ans que dans la politique agricole commune, on parle de verdissement, mais concrètement, ça a bougé. Mais très peu. Ça bouge un peu quand même.
Et est-ce que l'État peut... parce que bon, après, il y a des histoires de favoritisme, si on aide encore plus que les aides de l'Europe, etc. Parce que moi, je pense à la Vallée Verte, par exemple, à Die. Parce que là, du bas, que je connais bien, et en plus, ça me permet de faire un hommage à Michèle Rivasi, que j'aimais beaucoup, voilà, qui était la députée écolo de Valence, qui est une femme qui est morte il y a un mois, qui était extrêmement courageuse contre les pharmacies, contre tout ça.
Je ne savais pas qu'elle était de cette région.
Elle était de Valence. Et donc, c'est vrai qu'ils ont fait, entre Loriol et Die, une Vallée Verte. Alors là, en plus, avec des contraintes, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas, si vous n'êtes pas en bio, vous installer. Hein, c'est vraiment très bordé. Mais ça a plutôt été, une démarche de cette région qui est assez pauvre, hein, la vallée de la Drôme n'est pas très riche. Hein, c'est pas l'Europe qui a poussé à ça, c'est des petits paysans, parce que c'était justement des petits paysans, qui se sont regroupés et qui à un moment se sont fédérés pour créer cette vallée verte. Moi je crois plus à ce genre d'initiative qu'aujourd'hui à l'Europe.
C'est ça qui est intéressant, c'est que depuis 60 ans, mais surtout depuis les années 1980, on veut dire. Alors, je ne connais pas bien l'exemple de la vallée de Die, mais en Bretagne, ou dans le Midi, ou en Languedoc, ou dans le Massif central, il y a des initiatives qui partent de la base, hein, portées souvent par des militants syndicaux, ou d'anciens militants syndicaux, hein, ou par des gens... un peu différent, ou par des plus jeunes, hein, qui essaient de produire autrement et qui essaient, partage d'huile, de diffuser un peu leur exemple. Comment dirais-je ? Ce qui est intéressant, c'est qu'ils le font malgré des soutiens finalement très limités du gouvernement et de la politique agricole commune. Hein. Je n'ai pas bien expliqué tout à l'heure. C'est qu'il y a ces démarches qui ne sont pas suffisamment soutenues. Et donc, surtout que ce que j'essaie de montrer dans le livre, c'est que cette démarche pour aller vers une agriculture plus environnementale, ça prend du temps. Il y a des risques qui sont pris. Et donc, vous avez des éleveurs, là, je cite un ou deux éleveurs, qui racontent que la première année où sa prairie était... Il avait peur, il n'avait pas mis tout ce qu'il mettait d'habitude, les engrais, etc. Il avait peur que ça pousse pas, quoi, hein, la prairie où allait brouter ses bêtes. Hein. Et donc, il était très, très, très angoissé pendant les semaines. Et alors, il voyait ses voisins où ça montait plus. Et finalement, bon, il raconte qu'après, ça a été, etc.
Mais c'est vrai que pour beaucoup de gens aussi, quand on en parle... en préparant l'émission, j'en parlais avec mon mari, qui est pas voilà, y a des fois où on s'engueule tous les deux là-dessus, parce que vous parlez du Luberlu. Moi, je pense à cette vallée verte de Die, qui est extrêmement structurée. Hein, c'est pas du tout. Et c'est vrai qu'on a plutôt l'image de Pierre Rabhi, quoi. Je veux pas dire que Pierre Rabhi a pas fait du mal, hein, mais c'est un peu folklorique Rabhi quand même. C'est son petit terrain, c'est son voilà. Non, il y a des solutions quand même pour faire entrer l'écologie dans l'agriculture, tout en étant productif, enfin voilà, que c'est pas forcément nous dans notre permaculture au fond de notre jardin, quoi.
Oui, tout à fait. Alors, les premiers dans les années 1980, c'est du côté des Côtes d'Armor avec un personnage un peu emblématique qui s'appelait André Pochon, qui était un petit moyen agriculteur des Côtes d'Armor et qui a créé un centre pour une agriculture plus autonome. Et donc là, on est dans une région d'élevage. Hein. Et donc, eux, ils ont dit, on va diminuer sans passer en bio forcément, on va diminuer le recours aux engrais, aux pesticides, on va essayer de mettre de la luzerne, du trèfle, on va tenter des choses. Et donc l'idée, en fait, ce qui était assez amusant, c'est qu'il y avait l'idée, bien sûr pour nous qui nous fait plaisir les urbains, que l'eau serait plus pure, mais il y avait aussi l'idée d'être plus autonome des grandes entreprises qui leur vendent les produits pesticides, par exemple, ou engrais. Et il y a l'idée aussi de mieux vivre de leur travail, de mieux vivre financièrement, mais aussi en termes de temps de travail.
C'est sûr qu'aujourd'hui, je pense que plus personne, mais c'est dans tous les métiers, hein, il y a plein de métiers où on veut plus vivre, les médecins aujourd'hui ne veulent pas, moi je me rappelle dans mon enfance, les médecins, ils travaillaient 80 heures par semaine, ils venaient vous voir, ils montaient les étages, enfin j'étais à Paris à l'époque, plus personne ne veut vivre comme ça, je pense que les paysans ne veulent plus non plus vivre comme en 1880, et puis ça s'entend. C'est intéressant, enfin tout ce que vous dites est super intéressant, hein, Jean-Philippe, parce que ça va aussi à l'encontre des idées... des idées préconçues. Je pense que vous, aujourd'hui, vous êtes convaincu que ça peut marcher, une écologie à plus grande échelle dans le monde paysan.
Je pense que ça peut marcher. Alors bon, là, il y a l'inflation et la guerre en Ukraine, mais il y a des possibilités. Par exemple, il y a une loi qui a été votée qui s'appelle la loi Egalim, qui dit qu'il faut augmenter la part du bio dans tout ce qui est cantine, on va dire. Hein, voilà, hein. Or, on n'y est pas et rien n'est fait pour. Et rien n'est fait pour favoriser ça. Parce que, alors, ça suppose du travail du point de vue de la restauration collective, hein, en termes de répartition des denrées, etc., etc., hein, de travail.
Les déchets.
Tout à fait. Mais il y a des villes, il y a des petites villes, des petites communes qui le font. Il y en a une dans le Var qui est très connue. Oui. Mais il y a même des villes, des petites villes maintenant, qui sont passées qui le font. Alors, là, il y aurait effectivement un marché, un débouché pour les agriculteurs qui sont en bio ou qui diminuent, ou en local, hein, parce qu'il y a l'idée, Egalim, c'est bio et local. Voilà, il y a l'idée du local aussi.
D'ailleurs, moi, j'ai des copains qui font, moi, j'habite à Corconne, hein, donc il y a beaucoup de petits producteurs de maraîchers. Et il y en a qui ont choisi de ne pas être en bio, mais qui préfèrent local et circuit court, et qui, en définitive, ont un mode d'exploitation extrêmement proche du bio. Mais pour ne pas rentrer dans les obligations bio, préfèrent ne pas être étiquetés, ne pas demander la certification EcoCert, toutes les certifications liées au bio, qui sont tellement lourdes, les dossiers sont tellement lourds à monter. C'est, quand je vous dis ça, c'est des gens qui ont un hectare ou deux, hein, qui font vraiment les carottes qui vont vendre le vendredi matin au marché, quoi.
Oui, alors le livre porte... Alors le bio, c'est le plus facile parce qu'on a les données chiffrées. Donc je vous ai dit tout à l'heure, à peu près 12% des agriculteurs, voilà. Hein. Mais il y a aussi tous ceux qui font un pas de côté, je vais dire, par rapport au productivisme ou à la modernisation incontrôlée. Et tout ça, il faut favoriser, hein, sans forcément leur donner un label, hein, que c'est pas.
Bien sûr.
Mais il faut favoriser les gens qui travaillent comme ça.
On va rentrer plus dans le livre en parlant des questions précises que vous abordez. Mais avant, je vous ai demandé une page musicale et vous avez choisi pour nous les très belles forêts. Les forêts paisibles dans les Indes galantes, qui est un morceau superbe. Voilà, plein de guets, plein d'entrain. Voilà, on écoute et on n'écoutera peut-être pas les 5 minutes parce que je crois que c'est un petit peu long. À tout de suite.
Thank you.
Et vous êtes toujours sur FM+, dans l'émission Une belle rencontre, avec Nathalie au micro et en compagnie de Jean-Philippe Martin. Rebonjour Jean-Philippe. Bonjour. Et avec Yann à la technique que je salue. Voilà. On va parler un petit peu du livre. Le livre, il y a des chapitres plus importants. Le premier chapitre, c'est les premiers frémissements écologistes dans les années 60-70, avec des sous-rubriques, une modernisation à contrôler, les pionniers du bio, les paysans contestataires peu sensibles aux thèmes environnementaux, les écologistes très urbains, c'est vrai que ça c'est très intéressant, hein, les rapports entre les écolos de la campagne et ceux des villes, les partis qui se teintent en vert, les socialistes de l'écologisme mesuré et un rapport peu suivi des faits. Et puis les syndicalistes contre le veau aux hormones. C'est vrai que moi, je daterais assez ça. Le premier écolo, vraiment pour moi, hein, qui suis né en 60, 59, c'est René Dumont. C'est les premiers, voilà, les premiers sons vraiment écologiques et alertants. Le monde paysan s'imprègne de justement de cette sensibilité-là de Dumont ou pas?
Alors,
tellement
c'est très intéressant parce que René Dumont, vous ne l'ignorez pas, il était agronome. Eh oui. Et il connaissait...
Si je l'ignorais.
Ah bon, mais il était agronome. C'était un défenseur en 1945, hein, c'est un défenseur du productivisme.
D'accord.
Hein, de, il faut augmenter la production fourragère pour nourrir les bêtes, pour avoir les steaks. Bon, enfin voilà. Hein, donc il faut augmenter la production céréalière pour pouvoir exporter, etc. C'est un défenseur à fond la caisse du productivisme qu'on n'appelait pas comme ça forcément à l'époque. Mmh. Hein, voilà. Et puis petit à petit, il va changer de position. Mais avant de voir l'infléchissement de sa position, il y a un deuxième élément qui est intéressant, c'est qu'il connaît par cœur la gauche paysanne. Il connaît par cœur le monde agricole et il connaît très bien...
Pourquoi? Parce qu'il en est issu, Jean-Philippe?
Non, ah, je pense plutôt par son travail.
Par son travail,
à mon avis, mm-hmm. et parce que c'était un militant proche de la gauche socialiste,
oui, hein,
pendant
mm-hmm.
longtemps, hein, l'homme au pull rouge.
Oui, bien sûr.
Il connaît très bien, il était probablement proche du PSU à un moment au moment du fourmillement des années 70. De 68, et il connaît très bien quelqu'un qui est l'ancêtre de José Bové, à quoi je ne sais pas si nos auditeurs connaissent José Bové.
Oh bah quand même, voilà. Il est en photo dans le bureau de notre coordinateur d'antenne.
Voilà, alors, l'ancêtre de José Bové, c'est moi qui le dis comme ça, c'est quelqu'un qui s'appelait Bernard Lambert, issu de la jeunesse agricole catholique, et qui va rompre avec la FNSEA, et qui va être l'homme qui va être à l'initiative de ce qui deviendra bien plus tard, après sa mort, la Confédération paysanne, et qui en plus... Et l'homme qui va pointer un premier grand scandale alimentaire en France. C'est le scandale du veau aux hormones. Alors, René Dumont, comment l'insérer là? À la fois, il connaît bien, mais à la fois, je dirais qu'en 1974, il n'a pas encore tout à fait rompu avec le productivisme. Alors, à ma grande surprise, il y a peu de choses finalement dans sa profession de foi et dans son texte de 1974 sur l'agriculture.
D'accord.
Et curieusement, Brice Lalonde, qui est le candidat écologiste de 1980, urbain, lui, il a un chapitre, peut-être probablement s'appuyant sur l'expérience de Dumont, etc. Et puis 7 ans se sont écoulés. Il a un chapitre plus important et plus structuré sur la nécessaire inflexion de l'agriculture en 1981.
C'est vrai qu'entre 1974 et les émissions avec Dumont, et puis il y a aussi la crise du pétrole, hein, il y a aussi des changements au niveau mondial énorme. Et il ne faut pas oublier que, évidemment, 68 est passé, mais c'est 10 ans après 68, c'est aussi l'arrivée des traders, enfin 80, c'est aussi le marché triomphant. Enfin, pour moi, les années 80,
les années
c'est le marché
80,
triomphant,
vraiment.
C'est parce qu'il faut peut-être rappeler ça, justement, d'une façon tout à fait historique, qu'après la Seconde Guerre mondiale, il y a cette obligation de produire pour nourrir une France qui non seulement se reconstruit pendant les 30 glorieuses, mais étant, on nous le reproche suffisamment maintenant, hein, nous les boomers, d'avoir tout bouffé la France dans les années 60. Moi, je ne me sens pas très concernée parce que je suis née un peu après. Mais voilà, et vous aussi, Jean-Philippe.
Oui, oui, oui.
Mais bon, les gens qui ont aujourd'hui 70, 75 ans, on les traite tous de hyper privilégiés.
Alors, il ne faut pas perdre de vue qu'effectivement, Il y a eu la guerre de 39-45 et encore pendant 4 ans, il y a des tickets de rationnement, y compris sur le pain.
On l'oublie.
En France. D'où la position qui était justifiée à l'époque de René Dumont, il faut produire, il faut produire, il faut produire. Voilà. Et ce qui fait que, si j'en reviens à mes paysans, ceux qui vont commencer à infléchir à partir de 1980, ils le font moins du fait de l'influence des écologistes, comme courant de la société, que de leur propre expérience. Alors, je dirais qu'il y a deux, si on veut schématiser, il y a trois grandes branches. Une grande branche un peu à l'extérieur, c'est Nature et Progrès qui existe avant. Et qui ce ne sont pas des paysans au départ, forcément. Parmi le monde paysan, deux grandes branches, je dirais des paysans qui vont vouloir produire autrement, c'est André Pochon, qui sont d'anciens syndicalistes, etc., en disant il faut une agriculture plus autonome, en reprenant un discours d'un chercheur de l'INRA qui a été oublié. Voilà. Et des paysans plus syndicalistes, avec Bernard Lambert, qui, en 1980, en défendant des agriculteurs qui étaient endettés, se rendent compte que ces agriculteurs ont été obligés de recourir à des hormones interdites pour leurs veaux et vont dénoncer ce scandale en liaison avec une association de consommateurs. Alors, je ne rentre pas dans les détails. En liaison avec une association de consommateurs, ce qui fait, c'est le scandale du veau aux hormones, 1980. Et donc, l'idée, c'est de dire, on a voulu trop produire. On a voulu faire du veau industriel, on a voulu que les veaux grossissent plus vite.
Excusez-moi Jean-Philippe, petite quinte de tout, je vous laisse continuer.
Oui, donc je disais, en 1980, Bernard Lambert, paysan syndicaliste, va défendre des petits paysans endettés et il se rend compte qu'ils ont été obligés de piquer leurs veaux avec des hormones interdites. Il va dénoncer le scandale, passer alliance avec une association de consommateurs. Bon, je ne rentre pas là dans les détails, etc. Et donc, à partir de là, ce courant syndical commence, vous voyez, en 1980, à se questionner sur les finalités de l'agriculture. Qu'est-ce qu'on produit ? Est-ce qu'on produit de la qualité ou de la mauvaise qualité ? Quel produit pour les consommateurs ? Pourquoi le steak réduit ? C'est l'expression, le steak ça réduit dans la poêle. voilà, etc., etc. Donc, et dénoncer ce qu'ils appellent, à partir de 1980, le productivisme.
Et vous parlez de prise de conscience en Bretagne. Par exemple, on sait que la Bretagne est une des régions les plus polluées, avec les sous-sols les plus pollués. Il y a aussi, bien sûr, une prise de conscience agricole en même temps qu'une prise de conscience écologique plus large.
Alors, oui, la Bretagne, c'était un pays de petits producteurs, petits polyculture-élevage, qui s'est modernisé très rapidement. Et à partir des années 1970, il va y avoir des tensions entre au sein du syndicalisme paysan et aussi des tensions parmi les paysans, entre ceux qui, à partir de 1980, veulent produire autrement, et ceux qui continuent à dire il faut des élevages de porcs de plus en plus grands, des élevages bovins de plus en plus grands, il faut mettre des engrais, des pesticides, etc. etc.
Voilà. Les années 80, oui, donc c'est l'émergence d'une agriculture plurielle, hein, ce sont les titres que vous rappelez, des expérimentateurs qui diffusent d'autres pratiques. C'est quoi ces premières pratiques vraiment notables qui vont dire on change? Parce que par exemple, on parle beaucoup de permaculture. Moi, la permaculture, je l'entends parler depuis 10 ans. Hein. C'est quelque chose quand même d'assez récent. Qu'est-ce qui est dans les années 80-90, déjà les premiers mouvements de fond?
Alors, qui vont faire bouger les choses? Ce sont des gens qui vont dire on va laisser travailler les prairies différemment. Hein. On va essayer de faire des prairies naturelles. On va ne plus utiliser de pesticides. On va utiliser moins d'engrais chimiques. Voilà, c'est cette idée-là. On va peut-être sur tout ce qui est matériel, pas chercher à avoir forcément le matériel le plus moderne ou le plus performant. Et petit à petit, ça c'est ce qui se fait jour dans le domaine de l'élevage. Après, dans le domaine, par exemple, de la vigne, il y a des gens qui, petit à petit, vont dire, bon, il faut passer en bio. Après, vous avez sur le Larzac des gens qui vont dire, bon, il faut essayer d'avoir conserver un élevage, des brebis qui sortent, sur les terres. Et puis, on va essayer d'avoir un peu plus de plus-value en transformant nous-mêmes les produits. Voilà. Ça peut être Je cherche. Ah oui, par exemple, ça peut être des gens qui disent, eh bien, on va, mais ça ce sera peut-être un petit peu plus tard, hein, c'est à partir des années 90, des gens qui disent, eh bien, on a coupé les pommiers pour avoir des champs plus grands. Peut-être réintroduire des vergers. Voilà, réintroduire des...
Bon, même si... Oui, réintroduire, en ce moment, il y a un gros travail qui est fait sur les haies. J'ai vu un documentaire passionnant sur la 5, le jour sur les haies, qu'on réintroduit. Mais si on devait réintroduire les haies pour les retrouver dans un état d'il y a 50 ans, mais ça serait des sommes d'armes. D'ailleurs, il y a des petites associations qui reprennent hein, des... Ça existe, ça
de... Oui, il ne s'agit pas forcément de revenir à la taille des exploits,
bien sûr,
des champs des années. Hein,
bon. Et c'est vrai qu'on en parle peu, mais dans le changement de l'agriculture, c'est tout ce qui a été la grande période du remembrement. Ça a fait des dégâts monstrueux dans les campagnes. Alors, en même temps, ça a fait... Voilà, c'est ça que vous dites... On va peut-être parler un peu de ça, Jean-Philippe, que vous avez une vision d'historien qui donc évite la caricature, même s'il y a un engagement. Bon, ça c'est. Mais oui, bien sûr que le remembrement, ça a cassé les haies, ça a cassé les oiseaux, ça a cassé... mais qu'en même temps, ça a permis aussi de créer des espaces qui étaient beaucoup plus facilement exploitables pour les travailleurs agricoles.
Oui, pour les agriculteurs. Oui, tout à fait. Il y a à la fois ce, il fallait probablement transformer. Ça ne pouvait pas continuer comme. Hein, c'est pas ça la question. Hein. Il s'agit pas de revenir au passé tel qu'il était, mais il s'agit de s'inspirer de choses qui fonctionnaient dans le passé et de. C'est une modernité qui s'inspire du passé, mais aussi de ce qu'a été la modernisation et de la volonté de produire. Il s'agit de produire pour vendre.
Bien sûr. Même, hein. Et c'est vrai qu'il faut être vigilant.
C'est plus des paysans qui veulent vivre en autarcie. Ils veulent vivre en vendant leurs produits sur le marché. Mais ils ne veulent pas, par exemple, mettre leur santé en danger.
Bien sûr. Ben là, bon, on pourra vite fait du glyphosate. Mais c'est vrai qu'avec ce retour en arrière en ce moment de certains partis presque pétinistes, hein, excusez-moi, mais je vais jusqu'à là. C'est-à-dire qu'il y a un retour à la France, hein, à la France ou à la française. Il faut se méfier aussi de pas mettre justement cette conscience écologique. Il y a aussi un écologisme de droite, hein, assez réac et assez retour en arrière. Justement, et un mec comme Zemmour, il porte un peu cette voie-là. Hein. Qu'est-ce que c'était bien dans les années 1880 au du feu. Oui, enfin, il y avait l'expérience de vie des paysans, était de 45 ans, gars. Donc, faut éviter ce piège-là, Jean-Philippe, par exemple.
Les paysans que je décris, en tout cas, c'est pas des gens qui ont la nostalgie d'un passé difficile à vivre, en réalité. Difficile à vivre. Non. On peut s'inspirer du passé, et c'est ce qu'ils disent, hein, ils s'inspirent de choses qui se faisaient avant, mais ils utilisent des instruments modernes. Par exemple, il y a... on peut utiliser le tracteur, hein, bien sûr, certains labourent, mais bon, par exemple, à un moment donné, on a pensé qu'il fallait labourer de plus en plus profond. Or, maintenant, beaucoup d'agriculteurs se rendent compte qu'il ne faut pas labourer si profond, hein. Qu'il vaut mieux hercer ou laisser un couvert. Bon, enfin, il y a de très nombreuses méthodes. Moi, je ne suis pas agronome, hein,
mais il
y a de très nombreuses méthodes qui permettent d'utiliser des instruments modernes pour s'épargner. Parce que ce que disaient aussi ces paysans, plutôt les syndicalistes, c'est qu'ils ne voulaient pas vivre comme leurs parents. Hein. Et ils voulaient, en particulier, ils ne voulaient pas que leur compagne s'use comme leur mère. C'était usé.
Et non déclaré, parce qu'il ne faut pas oublier que quand même, comme les femmes de commerçants, les femmes d'agriculteurs n'avaient pas de retraite ou n'en ont pas eu pendant très longtemps.
Pendant très longtemps, c'est tout récent. Moi, j'ai rencontré des agricultrices là qui me disaient que c'est quelques centaines d'euros
qu'elles vont toucher. Voilà, c'est encore un gros problème.
C'est André Chassaigne. Chassaigne, pardon.
Député communiste.
Le député communiste qui a fait passer un texte législatif. Je crois qu'il a été adopté par tout le monde, hein, d'ailleurs. Mais bon, c'est quelques centaines d'euros. Hein,
mais les femmes de commerçants, c'est souvent aussi comme ça. La femme du boucher tenait la caisse toute la journée, mais n'avait pas de retraite. Je voudrais revenir à votre engagement, justement, parce que je vous ai présenté comme un homme engagé, historien engagé. Est-ce qu'aujourd'hui, cette révolte, quand même, qui suit tous les mouvements, on parlait de Noiriel en off, mais bon, dans le monde syndical, dans le monde ouvrier, cette révolte qui était encore très forte dans les années 70-80, est-ce qu'aujourd'hui, elle résonne? La dernière révolte paysanne, pour moi, c'est José Bové, hein, c'est toute la suite du Larzac, mais est-ce qu'il y a une résonance dans le milieu agricole aujourd'hui, et peut-être plus largement dans ma question, dans la société française aujourd'hui? Est-ce qu'il y a de la place pour ça? Est-ce que les gens se révoltent peu, Jean-Philippe, en ce moment? Est-ce que les agriculteurs ont une capacité de révolte plus grande.
Je ne suis pas devin. Je dois vous l'avouer. Bon, j'utiliserai le terme révolte, hein, contestation, critique, volonté de faire autrement. Hein. Alors, les paysans qui font autrement, ils existent. Ils représentent une part. Ils sont minoritaires. Hein. Alors, on va dire 15-20%. Ils sont minoritaires. Hein. Même la Confédération paysanne est minoritaire. Elle doit faire autour de 20% aux élections aux chambres départementales d'agriculture. Donc, mais ils existent. Alors, donc, moi, je trouve que ce fil est intéressant. C'est un fil intéressant. Ils existent. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils passent des alliances avec une partie de la population urbaine. Alors, pas tous, hein, vous savez, les associations écologistes, c'est quand même CSP+, et BAC+, quelque chose, hein, d'accord. Bon, mais, et donc, il me semble que ces alliances, avec leurs limites, leurs contradictions, je ne dis pas que je suis d'accord avec tout, hein, ça apporte quelque chose sur l'avenir. C'est porteur d'avenir et c'est pour ça que je pense que c'est important.
De toute façon, après, c'est une petite musique, hein, qui est là, qui est derrière et qui passe. Hein.
Après, franchement, est-ce qu'on va continuer le productivisme comme ça à 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans? Je veux dire que, est-ce qu'on va continuer à utiliser des pesticides 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans en reportant chaque 6 mois la date d'arrêt de l'utilisation?
C'est une des questions que je voulais vous poser, Jean-Philippe. Évidemment que la loi est passée il n'y a pas longtemps sur la prolongation de 10 ans du glyphosate, c'est ça?
Alors, je ne sais pas si c'est une loi, hein, c'est un texte au niveau de l'Union européenne. Oui,
parce que là, il y a vraiment des effets néfastes du glyphosate, ils sont prouvés.
Ah ben, les effets des pesticides sont prouvés. Hein, je crois d'ailleurs qu'il y a une soirée de l'association Secret Toxique bientôt. Il y en avait une hier, je crois, à la Gazette Café. Voilà, hein, et bientôt au Quartier Généreux, je crois. Ça tourne dans la région. Oui, c'est prouvé, que ce soit les effets du glyphosate ou les effets des autres produits. Alors, ce qui était intéressant, vous avez un bouquin super intéressant, un peu ardu, fait par un politiste, Jean-Noël Jouzel, de mémoire. C'est autour de l'idée, comment ignorer ce que l'on sait? Comment ignorer ce que l'on sait? On sait que c'est dangereux, mais il y a des pressions telles de l'agro-industrie, il y a de la FNSEA, c'est pas une caricature de dire la FNSEA est pour. Hein, alors je dis peut-être il faut pas arrêter tout de suite, mais il faut au moins préparer. Or ça fait 6 ans qu'un président de la République a dit que demain, ça y est, c'était fini, on a arrêté le glyphosate et que rien n'est fait pour préparer cela. Donc c'est bien facile après de dire. Hein,
bien sûr.
Voilà.
On arrive à la fin de l'émission, Jean-Philippe. Donc je suis sûr, j'avais mis pour vous dire que je savais qu'on allait se retrouver. Je sais qu'on va se retrouver parce qu'il y a plein de sujets que je voulais aborder avec vous. Je voulais vous parler du Larzac, je voulais vous parler de plein de choses. Donc on va se donner rendez-vous, on va se trouver un moment pour voir au printemps. Oui. Et je vous remercie beaucoup d'avoir partagé tous ces propos très concernants. Moi j'ai appris plein de choses, j'espère que nos auditeurs aussi. Et je remercie encore Yann à la technique et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir Jean-Philippe.
Merci,
Martin.
Bonne journée.
Et tous les coordonnées du LIS seront bien sûr sur le site en podcast.
Merci.
Au revoir.
Au revoir.
Les plus belles rencontres sont toujours inattendues. Elles peuvent parfois changer le cours de votre vie.